Bienvenue sur la chaîne AAU. Ambiance, architecture, urbanité.
Anthropologue et praticien, Martin Givor explore la discipline du Zinen Qigong et comment celle-ci pourrait permettre une reconnexion avec la présence oubliée de la Terre dans nos existences.
Dans deux mots, j'introduis Martin. La première fois que j'ai rencontré Martin, c'était dans le climat très tempéré de nord de l'Écosse, à Aberdeen, où Martin est venu avec son ami, son collègue Jacopo Razmi, faire un entretien avec Tim Ingold, où moi, je travaillais sur un projet avec Tim. Et Martin et Jacopo nous ont rejoints pour une petite semaine de conférences, de performances et d'expositions là-haut. Alors quand j'ai eu l'opportunité de venir à Grenoble, j'étais très très content de savoir que cette ville était peuplée. Il avait Martin et Jacopo ici. Martin a fait sa thèse au centre de langue, littérature et sciences humaines ici à Grenoble, c'est ça? C'est ça. Il a fait sa thèse sous la direction d'Yves Citan. Ah, de chrétienne. C'est bien qu'elle n'est pas là. Ah, ok, la force. Ouais. Pour sa thèse, il a suivi la construction d'une performance qui s'appelait Fractus V. Five. Ouais. Five romain. Qui était dirigée par le chorégraphe Sidi Larbi Tcherkaoui. Avec quatre danseurs d'horizons très différents. Cinq, parce que la thèse, en fait, tu l'as écrit du point de vue de danseur et d'anthropologue, voilà, et qui a suivi toute la création de toutes les formes d'apprentissage et d'apprentissage mutuel, toutes les formes de création collective, en fait, alors ça rejoint tout à fait les enjeux qu'on essaye d'ouvrir aujourd'hui. Avec quelques-uns dans la salle, j'ai aussi la grande chance de suivre des cours de Qigong avec Martin, qui pour moi a été toute une découverte d'une discipline qui transforme la relation avec mon corps, avec le milieu. Et en fait, ça fait 6 mois à peu près que Martin a commencé un postdoc à laboratoire de l'anthropologie socio-culturelle à Liège, sur le Qigong. Et c'est du Qigong que tu vas nous parler aujourd'hui.
Exactement. Ouais. Donc peut-être présenter très rapidement, effectivement, la recherche dont je vais vous parler. C'est une recherche qui est en chantier, parce que même si ça fait 10 ans que je fais du Qigong, ça ne fait pas 10 ans que j'en fais un objet de recherche à part entière. Même si j'ai commencé à le prendre comme objet aussi de recherche à la fin de ma thèse, une fois que j'avais fini ma thèse. Donc ouais, effectivement, chantier un peu frais, donc je vais vous présenter des choses qui sont en chantier. Donc si c'est un peu bricolé par moment, vous m'excuserez, mais j'ai cru comprendre que c'était le lieu pour. Donc ce sera à l'image de ce que vous attendez. Mais peut-être avant de rentrer dans l'exposé un peu de ce que je voulais vous présenter sur le Qigong, je vais vous proposer une petite pratique introductive. Petite pratique, je lance mon chrono, parce que c'est des pratiques dans lesquelles, il y en a qui le savent, on peut se perdre un peu, on prend du temps. Donc puisqu'on a des choses à discuter aussi, je vais essayer de réduire et faire juste un petit quart d'heure de pratique, à peu près, 10-15 minutes. Voilà. Je vous propose de rentrer directement dedans et on laisse infuser, ça va faire des échos avec ce dont je vais vous parler, des fois plus ou moins lointains, mais ça me paraît important de traverser ça. Au niveau de l'espace, encore une fois, ça va être très simple. Vous avez juste besoin de trouver un spot où vous posez vos deux pieds joints. Et la seule contrainte, c'est depuis ce spot-là, pouvoir faire ce geste-là. Ouais, le bras tendu à 45 degrés, qui monte jusqu'en haut. Si vous pouvez faire ça, on est bon. Alors, pour commencer, commencer, je vais vous inviter à joindre les pieds. Et ramener les paumes de main devant la poitrine, mains jointes. Et juste dans cette position, fermez les yeux. Fermez les yeux et prendre un temps pour commencer en imaginant les paumes de main à l'intérieur de la poitrine. Imaginez que vos paumes de main jointes sont dans l'espace du cœur, sous le sternum. Dans le volume de la poitrine. Imaginez simplement les paumes de main à l'intérieur de la poitrine. Et votre attention comme déposée entre les paumes de main. Et tranquillement, toujours les yeux fermés, vous pouvez redescendre les bras. Laissez les bras tendre de chaque côté du corps. Et juste prendre un temps pour observer, sans commentaire, sans forme de jugement, mais simplement observer de manière assez globale l'état de votre corps. Comment est-ce que vous ressentez, vous percevez votre corps dans sa globalité ? Même si c'est une perception un peu globale, un peu floue, pas très précise, avec des zones d'ombre, peu importe. Ce qui compte, c'est d'essayer d'embrasser ce corps-là dans sa globalité. Avec tout son flou, le flou de ses volumes, le flou de ses frontières. Le flou de son articulation, de sa posture. Vous pouvez aussi observer la manière dont votre poids se répartit sur vos pieds, dans la plante de pied. Peut-être que cette répartition du poids est dynamique, mobile, entre l'avant du pied et l'arrière du pied, entre le pied gauche et le pied droit, le bord extérieur. Simplement avoir une conscience du poids du corps, du contact avec le sol, la plante de pied. Puis portez votre attention maintenant au sommet de la tête, tout en gardant quelque part dans votre champ de conscience les pieds, cet ancrage au sol. Et maintenant posez votre attention sur le sommet de la tête. Et je vais vous proposer d'imaginer qu'il y a comme un fil qui part du sommet de la tête et qui vient se suspendre dans le ciel. Vous allez imaginer ce fil. En cherchant finalement, peu importe les images que vous convoquez, mais à alléger un peu le poids de votre tête. Comme si votre tête devenait un ballon léger, qui pouvait monter dans le ciel, toucher le ciel. Imaginez le ciel au-dessus de votre tête, comme un grand volume, comme quelque chose qui se touche. Du sommet de la tête, quelque chose qui vous attire, qui vous suspend. Un espace vaste, peut-être infini, mais que vous pouvez sentir quand même. Et maintenant, regardez votre corps entre le sommet de la tête et les pieds. Comme suspendu entre le ciel, la terre, sous vos pieds. Et dans cette suspension, laissez le corps globalement relâché. Si le corps est agité de micro-mouvements, laissez les micro-mouvements advenir, sans les restreindre. Un peu comme un linge suspendu. Et pendant toute la pratique, je vais vous proposer de garder comme ça, dans un coin, ces deux attentions. L'attention au sommet de la tête, suspendue dans le ciel, qui touche le ciel. L'attention aux pieds, qui s'enracinent, qui s'enfoncent comme ça dans la terre. Et entre les deux, le corps globalement relâché. Et pour relâcher plus profondément le corps, on va toujours les yeux fermés, venir visiter différents espaces. Et pour commencer, je vais vous proposer de porter attention à votre visage, à votre front, et d'imaginer que vous détendez les muscles et les peaux du front. Relâchez le front. Relâchez les yeux, les sourcils, les paupières. Regardez les joues. Relâchez les muscles des joues. Les ailes du nez. Regardez la bouche. Les alentours de la bouche, les gencives, les lèvres. Relâche les lèvres. Puis relâche toute la mâchoire. Il remonte jusqu'aux oreilles. Et regarde toute la peau du crâne, du cuir chevelu. Et imagine que toute la peau du cuir chevelu se relâche. Au-dessus, sur les côtés, sur les tempes, à l'arrière, au niveau de l'occiput. Relâche toute la peau du crâne. Et puis regarde les épaules. Tranquillement, imagine que les épaules s'éloignent très progressivement des oreilles. Comme si les pointes des épaules s'enfonçaient dans la terre, sous le poids de la gravité. Relâche les épaules dans le sol. Et relâche tous les trapèzes qui relient la nuque aux épaules. Puis regarde l'espace des bras, l'espace intérieur de tes bras, le volume de tes bras, depuis le sommet de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Relâche globalement les bras. Relâche les coudes, relâche les poignets, tu peux sentir le poids du bras. Relâche chacun des doigts, jusqu'à la pulpe, le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Relâche tous les doigts. Regarde le poids des bras, très lourd. Et à nouveau, regarde l'espace de la poitrine et du haut du dos. D'abord la poitrine, à l'avant, on relâche la poitrine. Tout l'espace des pectoraux, des côtes, relâche. À l'arrière du dos, relâche les omoplates. Les muscles qui relient la colonne vertébrale aux omoplates. Puis regarde l'abdomen. Relâche l'abdomen, relâche la sangle abdominale. À l'arrière, au niveau des lombaires, relâche tous les muscles lombaires. Laisse le bassin comme s'enfoncer dans la terre, comme si ton sacrum, ton coccyx, venait sombrer profondément dans la terre. Les genoux sont très légèrement fléchis. Et puis regarde tes jambes, du sommet des hanches jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds. Relâche les jambes, relâche les cuisses, relâche les tensions autour des genoux, les genoux légèrement déverrouillés. Si le corps est animé de micro-mouvements, laisse les micro-mouvements se faire. Relâche les mollets, puis regarde les chevilles. Relâche les chevilles à l'intérieur, à l'extérieur. Puis la plante de pied. Relâche tous les muscles de la plante de pied, depuis le talon jusqu'aux orteils. Et à nouveau, regarde tout le poids du corps dans les pieds. Le corps très lourd, qui épouse le sol. Et regarde le sommet de la tête suspendu dans le ciel. Et à nouveau, essaye de convoquer comme une perception très globale de ton corps, à nouveau. Une perception très globale. Du volume de ton corps. Du volume de ce corps dans cet espace. Et tranquillement, imagine que toute la face antérieure de ton corps, la face avant du corps, vient comme s'appuyer sur l'espace à l'avant. Comme si l'espace était similaire à un grand coussin, quelque chose sur lequel tu pouvais te déposer, entrer en contact avec ta peau. Et quand tu touches cet espace à l'avant, imagine le volume de cet espace, peut-être bien au-delà de cette salle. Puis regarde l'espace à l'arrière du corps, derrière la nuque, la tête, derrière le dos, derrière les fessiers, les cuisses, les jambes. Regarde tout l'espace à l'arrière du corps, comme si tu te déposais sur l'espace. Regarde l'espace à ta droite, très loin, peut-être au-delà de cette salle. Regarde l'espace à gauche. Imagine le volume, comme si tu pouvais sentir ce volume par le toucher. Puis regarde l'espace au-dessus de toi. La tête en contact avec cet espace immense, peut-être l'espace du ciel. Et regarde l'espace sous tes pieds. Au-delà du sol. Comme si tu pouvais avoir une appréciation du volume de la terre sous tes pieds. Dans sa profondeur. Et dans cet état, simplement, proposer de monter les paumes de main au niveau du nombril, à l'avant, toujours les yeux fermés. Et les paumes de main se font face. Simplement, les coudes sont fléchis. Les paumes de main se font face au niveau du nombril. Paume face à l'autre paume. Je vais t'inviter à prendre conscience ou à porter attention à l'espace entre tes paumes de main. L'espace entre les paumes de main et peut-être même à la peau. La surface des doigts. Et à nouveau l'espace entre les paumes de main. Et très 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 doucement, je vais te proposer de rapprocher les paumes de main. Très lentement. En étant peut-être attentif au phénomène de pression, de résistance, de chaleur, ou peut-être toute autre chose entre les paumes de main. Comme si l'air que tu venais compresser était extrêmement sensible, mais aussi extrêmement fuyant, qu'il fallait très précautionneux, très soigneux dans l'approche, dans le toucher, pour ne pas le faire fuir. Prendre soin de la qualité du contact. Et puis maintenant, écarte les paumes de main. Les paumes de main s'éloignent et tout en éloignant les paumes de main, regarde les manifestations entre les paumes de main. Regarde l'espace entre les paumes de main. Regarde peut-être quelque chose qui s'étire, qui s'ouvre, qui gonfle, peut-être tout autre chose. Ouvre l'espace entre les paumes de main. Comme si tes paumes de main étaient repoussées. Et à nouveau, rapproche les paumes de main. Très délicatement. Rapproche les paumes de main. La conscience posée sur l'espace entre les mains, sur la peau. Comme si tu condensais quelque chose entre les paumes de main. Et à nouveau, ouvre, expanse, laisse l'air s'expanser entre les paumes de main. Repousse tes mains. Tu peux ouvrir, ouvrir, écarter. Et une dernière fois, rapproche les paumes de main, très doucement. Seulement à l'écoute. Et une dernière fois, viens ouvrir l'espace. Très tranquillement. Et relâche les bras de chaque côté du corps. Relâche les coudes. Les bras pendent le long du corps. Puis viens poser ton attention dans les paumes de main. Les bras toujours très lourds. Regarde les paumes de main qui pendent de chaque côté du corps. Et imagine peut-être les paumes de main très lourdes qui descendent dans le volume de la terre. Paumes de main comme attirées par le sol qui descendent très profondément. Et tu peux peut-être imaginer et sentir contre tes paumes de main la terre. Le volume de la terre, comme si tes paumes de main étaient très loin, très profondément, dans le sol, toujours plus loin, qui n'arrête pas de descendre. Et doucement, tourne les paumes de main vers l'avant, juste toujours les bras le long du corps, seulement les paumes de main tournées vers l'avant. Et imagine soulever comme ça, peut-être l'énergie, le chi de la terre, peu importe l'image que tu lui prêtes. Peut-être une brume, peut-être un nuage, peut-être une couleur, peut-être un liquide, peu importe. Peut-être qu'il n'y a pas d'image du tout. Et je vais vous proposer de lever les bras. Levez les bras à 45 degrés devant vous, très délicatement, comme si vous souleviez cette énergie ou cette chose de la terre, cette brume qui monte très doucement, très délicatement. Soulevez à 45 degrés. Et soulevez, passez les hanches, passez l'abdomen, continuez de monter, continuez de soulever, comme quelque chose de très précieux et de très fragile. Que vous inviteriez à monter. Comme si cette brume s'imprégnait dans l'espace tout autour, dans votre corps, à mesure qu'elle monte. Soulevez les paumes de main, passez les épaules. Continuez l'ascension. Passez la tête. Et amenez les paumes de main jusqu'au-dessus de la tête, les bras tendus jusque dans le ciel. Imagine le bout des doigts dans le ciel. Imagine le bout des doigts qui monte toujours plus loin dans le ciel, autour des paumes de main,
la texture de l'énergie du ciel peut-être. Puis tourne les paumes de main vers le sol. Relâche les épaules, relâche les coudes. Et invite peut-être cette brume ou cette énergie que tu imagines du ciel à descendre. À descendre sous tes paumes de main. À descendre dans cet espace. Très délicatement. Les paumes de main descendent. Comme pour accompagner cette brume. Qui emplit l'espace, emplit le corps et descend jusque dans les profondeurs de la terre. Descend. Et très tranquillement, ramène les paumes de main sur ton nombril. Superpose les paumes de main sur le nombril. Et prends simplement quelques instants pour observer juste les sensations. La perception globale du corps. La perception de l'espace. Des volumes. Dans toutes les directions. Et tranquillement, relâche les bras, relâche les mains et ouvre les yeux à ton rythme. Ok. Vous invitez à vous rasseoir. Merci. J'ai donc dit 15 minutes, ça fait 23, donc je suis à peu près dans les délais de dépassement attendus. Ok. Peut-être deux mots. La pratique qu'on vient de faire, donc c'est une pratique de Dzogchen Qigong. Le Qigong, c'est un ensemble de disciplines corporelles, et corporelles déjà, pose question, mais bon, on va dire comme ça. Un ensemble de disciplines corporelles chinoises. J'ai dit un ensemble parce que le terme date des années 50, même en Chine, pour recouvrer tout un ensemble de pratiques qui portaient des noms différents, qui avaient des subdivisions, des sous-catégories différentes et qui étaient pratiquées dans différents contextes, que ce soit des contextes martiaux, des contextes religieux, spirituels et des contextes plutôt médicaux. Bon, mais il y a un grand terme, une supra-catégorie qui est venue englober toutes ces pratiques, qui est le terme de Qigong. Et moi, je m'intéresse donc en ce moment à des pratiques de Qigong pratiquées en Europe, et principalement en France, en Angleterre et en Allemagne. Et dans cette famille de pratiques, je m'intéresse notamment au Dzogchen Qigong, donc la pratique que je viens de vous partager, qui est une pratique que j'ai moi-même découverte il y a 10 ans, donc que je pratique et que je partage avec certaines personnes. Et qui est devenu l'un de mes objets de recherche. Je vais prendre un petit temps qui est plus ou moins petit, peut-être pour revenir sur la question de l'énergie. Revenir sur la question de l'énergie parce que c'est un terme qui revient dans mes terrains. J'ai deux terrains principaux, on va dire. J'ai un terrain qui est dans les pratiques de Qigong et un autre terrain qui est dans les pratiques de danse, et notamment de pratiques de danse in situ, où je m'intéresse plus spécifiquement à la question de la manière dont des pratiques corporelles invitent à des perceptions, des sensations de continuité entre le corps et son environnement. C'est un peu ça qui m'intéresse. Et la manière dont ces perceptions et ces corporéités qui sont développées par les pratiques ensuite se disséminent ou se propagent et viennent soit amorcer, soit renforcer, soit indifférer d'autres pratiques de la vie ordinaire des personnes qui pratiquent justement Est-ce que ça vient faire émerger des idées? Est-ce que ça vient renforcer des conduites politiques ou écologiques? Quel effet ces pratiques ont et ces percepts ont sur le reste de la vie sociale des personnes qui s'y engagent? Et donc dans deux terrains, à la fois le terrain artistique et le terrain des pratiques de Qigong. Et donc dans ces deux terrains, je suis confronté aux usages de la notion d'énergie. En Qigong, dans les traductions qui sont, je dirais, généralement données du Qigong, Qi est souvent traduit par énergie ou souffle, mais la traduction la plus utilisée et la plus entendue, c'est celle d'énergie. Et Kong, c'est le travail. Donc Qigong, travail de l'énergie. Sachant que le terme même d'énergie ici vient poser problème, parce qu'il vient justement entrer en collision avec d'autres usages du terme d'énergie dans le champ de la physique, etc., que les praticiens de Qigong sont plus ou moins au courant de cette collision, mais ça n'empêche pas que les usages sont ceux-là. Pour la petite anecdote, la dernière fois, je faisais un entretien avec quelqu'un qui est ingénieur, qui pratique le Qigong depuis, qui a commencé avec moi, en fait. Donc une dizaine d'années, qui est ingénieur, et au moment où je lui demande de me parler un peu du Qi, il me dit « Oui, énergie, c'est vraiment un très mauvais terme, parce que moi, mes collègues ingénieurs, vraiment, ils disent que c'est un très mauvais terme. » Du coup, il commence à employer le terme « souffle », qui est le deuxième terme qu'on repère. C'est minoritaire, mais chez certains praticiens. « Souffle vital » ou « souffle tout court ». Et au bout de deux phrases, c'est déjà devenu le souffle énergétique dont tu me parles. Donc, il y a un enjeu quand même dans ce terme d'énergie, dans sa persistance. Et il est venu cristalliser quelque chose. Donc, moi, je me suis intéressé, et c'est ce que je vais vous partager là, dans un premier temps, essayer de déplier un peu les différents sens qu'on prête à ce terme. En tout cas, que les praticiens prêtent à ce terme. Principalement les praticiens de Qigong, mais je m'intéresserai aussi un peu à ses usages en danse. Mais simplement peut-être pour faire des échos plus ou moins lointains aux pratiques de Qigong. Et dire peut-être d'emblée que le terme d'énergie, par rapport à la thématique aussi de ce séminaire, il a cela d'intéressant que même quand il est partagé comme objet d'étude dans certains séminaires, il attire parfois l'hostilité au sens où on se dit mais c'est un terme émique, quoi, c'est un terme du terrain, qui vient du terrain, mais c'est pas du tout une catégorie éthique, scientifique, d'analyse. Enfin, c'est comme un présupposé, un postulat de base de me dire tu n'en fais pas, rassure-nous en quelque sorte, tu n'en fais pas une supra-catégorie qui dépasserait ton terrain, etc. Ça, c'est toujours un enjeu, enfin, ou qui m'est souvent renvoyé à un moment dans les séminaires de situer aussi l'emploi que j'en fais. Donc là, effectivement, je vais jouer le jeu très simplement et dire que je vais relever les usages, les différents usages de terrain que j'ai de ce terme. Et en prenant le choix de les poser comme ça, les uns à côté des autres, sans faire un espèce de temps de synthèse pour dire qu'en fait c'est la même chose ou pas vraiment, etc. Je vais simplement les poser. C'est encore en chantier. Donc j'appelle ça un nuancier énergétique, juste pour qu'on... Parce que souvent c'est un des reproches de dire mais l'énergie c'est hyper flou, quoi. Enfin, c'est quand même la principale chose qu'on reproche à ce terme, que les praticiens, que les danseurs, que tout un tas de gens reprochent au terme quand ils lui font des reproches, c'est son flou. Donc, dans ce flou, est-ce qu'on essaye de voir comme ça une espèce de nuancier pour mettre des sous-catégories, des modalités de la perception énergétique. Et la première modalité de sensibilité énergétique que je vous présente, c'est celle qui est extrêmement développée dans la pratique du Dzogchen Qigong et qui est la sensibilité énergétique, pardon, comme une manière d'être en relation avec des présences qu'on pourrait qualifier un peu d'atmosphériques, comme ça, parce que c'est comme si on touchait de l'air, justement, un peu par rapport à... Mais bon, c'est ce que vous disiez juste avant. Comme si on touchait de l'air, comme si on touchait une atmosphère, que cette atmosphère qui paraissait vide devenait plus vraiment vide, mais un peu dense. Donc il y a de la densité. Il y a des questions d'intensité aussi. Ces densités, elles ont plus différentes intensités. En tout cas, cet air, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a une résistance. Il exerce des formes de résistance. Il y a un jeu de pression, comme une espèce de grammaire fondamentale faite de pression et de relâchement. Qui est aussi un peu la grammaire fondamentale du toucher, aussi, mais cette fois avec de l'air. Donc des pressions, des relâchements. Et qui dit pression, relâchement, dit donc ces formes de résistance qu'on vient rencontrer. Et qui dit résistance ici, dit souvent présence. C'est parce qu'il y a résistance à un moment, résistance de l'air, que la présence du chi ou que l'existence du chi est aussi supposée. Ou en tout cas postuler. En tout cas, c'est un des leviers de cette expérience physique d'une forme de résistance qui vient comme ça suggérer, qui viendrait comme ça suggérer la présence de quelque chose, la présence du chi ici. Donc voilà, donc ici, là, dans cette espèce de première idée comme ça, la sensibilité énergétique, ce serait la sensibilité à des formes de résistance, de présence, qui viennent témoigner d'une existence, qu'à un endroit, il y a une existence, donc il y a une entité, et avec laquelle on va pouvoir interagir dans un jeu, justement, de pression et de relâchement. Donc voilà, ça, c'est peut-être une première entrée sur la question de la sensibilité énergétique, la sensibilité à ces volumes, à ces enveloppes, et du coup aux entités porteuses, ou des entités que constituent finalement ces enveloppes. Et qui dit aussi sensibilité atmosphérique, dit aussi des possibilités d'interaction et d'échange entre les corps. C'est comme si c'était un peu une autre physique, dans laquelle finalement les corps étaient des enveloppes, des enveloppes d'atmosphère, et que finalement ces enveloppes, elles étaient poreuses aussi. Du coup, c'est aussi un régime de présence dans lequel l'air qui nous entoure, il est aussi à l'intérieur, il peut circuler entre l'intérieur et l'extérieur, pas seulement par la bouche et le nez. Donc c'est pour ça que la traduction de souffle au sens respiratoire est souvent complétée par souffle énergétique, parce que sinon après on se dit « Ah, mais c'est quand tu respires en fait ». On dit « Mais non, c'est pas exactement ça, c'est plus que ça ». Bon. Voilà, donc des présences atmosphériques qui circulent entre les corps, à l'intérieur des corps. Une deuxième acception peut-être de la question de la sensibilité énergétique, et là ça vient toujours d'entretiens qui sont faits avec des praticiens de Qigong. Justement, il y en a un qui me disait quelle est la différence pour lui entre le yoga et le Qigong, lui qui avait pratiqué le yoga pendant une quinzaine d'années et qui s'était mis ensuite au Qigong. Il m'explique que dans le Qigong, les mouvements se font presque malgré lui, qu'il y a comme une force à travers lui qui fait le mouvement, mais qui ne se sent pas à proprement parler l'auteur du mouvement lui-même. Il y a comme quelque chose qui passe à travers lui et qui le fait agir. L'énergie, donc là, c'est une force qui meut le corps, qui le met en mouvement, mais qui le dépasse aussi, qui excède aussi l'intentionnalité même du corps du praticien. Et donc, la sensibilité énergétique, c'est d'être sensible à ce phénomène que quelque chose se produit malgré soi, d'une certaine manière, ou quelque chose qui se dépasse, qui dépasse l'intentionnalité de la personne, se déploie malgré tout et met le corps en mouvement, que ce soit dans des mouvements internes, que ce soit dans des mouvements, je veux dire, internes, peut-être invisibles de loin, qui ont l'air, dans un corps qui aurait l'air d'être immobile, ou que ce soit vraiment dans un porté de bras, etc. Donc quelque chose qui se déploie, mais qui se fait presque à l'insu, pas exactement à l'insu, mais presque du praticien lui-même. Et donc cette qualité d'agir, de laisser agir, rejoindrait un peu cette sensibilité énergétique comme la sensibilité d'une force qui agit à travers soi. Une troisième modalité donc de cette sensibilité énergétique, ce serait de dire que l'énergie, c'est ce qu'on appelle énergie, ce que les praticiens viennent nommer énergie, c'est aussi des formes de synergie. Des synergies que j'appelle insécables, donc c'est des modes de coordination. Quand on fait un mouvement, il y a une coordination de tout un tas d'agents, d'acteurs, de forces pour effectuer le mouvement. Mais quand il y a une telle complexité d'agents qu'on n'arrive pas exactement et qu'on ne peut pas, voire même les disséquer, les couper, dire « Ah, c'est ma jambe, puis c'est mon bras, puis c'est mon truc », parce que c'est une synergie de choses qui agissent ensemble et qu'on n'arrive pas forcément à discriminer les différents actants ou les différentes forces à l'œuvre dans un mouvement, on appelle ça de l'énergie. Mais l'énergie, ce serait finalement cette synergie, ce serait cette action commune d'une complexité d'acteurs qu'on a du mal à identifier. Ça, c'est un usage qu'on retrouve assez facilement en danse, dans le sens où c'est un micro-extrait, mais c'est plutôt... c'est pas vraiment pour rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous les présenter. Ici, deux danseurs. Donc, celui de gauche, je vous remonte le mouvement qu'il vient de faire. Oh mon Dieu. Ok, acrobate et danseur. Donc le danseur de gauche qui montre une acrobatie à son collègue, qui est danseur de hip-hop, le collègue à droite à l'image, et lui qui va essayer de refaire le mouvement. Et donc ça, c'est une situation de transmission assez classique où juste ils vont transmettre, l'acrobate va transmettre le mouvement ou montrer à son collègue. Et au moment de la transmission, justement, quand ils en viennent à la parole pour expliquer mais comment tu fais le geste, bah là, le terme d'énergie, typiquement, il va émerger. Je veux dire, là, l'acrobate à gauche lui disait, en fait, là, tu prends l'énergie dans le sol et tu l'amènes dans ton pied. Et donc, tu prends l'énergie dans le sol, tu l'amènes dans ton pied. Ensuite, en fait, pendant la, il va lui proposer de découper ensuite le mouvement dans différentes séquences, en insistant sur le port de bras, okay, le port de bras, l'ouverture de l'extension, l'ouverture de hanche, différentes choses. Mais le premier terme qui vient pour expliquer ce qui est en train de se passer, c'est celui d'énergie comme une espèce de circulation de force d'un point à un autre du corps, et une force qui viendrait de la terre, qui circule à travers le corps et qui sort, et qui arrive jusqu'au pied. Et c'est toute cette coordination-là, et cette synergie-là, qui est finalement résumée à travers le terme d'énergie. Et c'est aussi une manière de ne pas rentrer dans tout un tas de détails de la position du bras, de l'ouverture de l'épaule, de la hanche qui vient pousser vers l'avant, et du pied en extension, etc. etc. Pourquoi ? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on ne dit pas quand on commence à le découper, le mouvement comme ça, dans différents points d'attention, on ne dit pas justement la globalité de la chose. On ne dit pas le processus lui-même, mais on essaye de découper sur certains points d'attention à l'intérieur du processus. Et c'est justement ce que vient manquer, et justement ce que lui voulait transmettre à la base, c'était ce processus-là. Et l'énergie, c'est un peu cette forme de coordination très globale d'une force qui vient circuler à l'intérieur et sur laquelle on veut pas à ce moment-là qu'on ne veut pas découper. C'est un processus de mouvement qu'on ne veut pas découper. Parce que découper, c'est aussi préciser les différents acteurs, finalement. Enfin, les différents acteurs ou la hanche, etc. Or, la notion d'énergie, elle a cela d'intéressante qu'elle arrive aussi pour questionner des anatomies aussi. Questionner des anatomies, questionner des compréhensions du corps. Peut-être que si l'acrobate peut-être que s'il ne veut pas rentrer dans des détails d'anatomie, justement, et d'articulation, et peut-être parce qu'il n'a pas non plus une connaissance anatomique de tout ce qui est en train de se passer, il peut avoir malgré tout un savoir tacite corporel très fin. Et finalement, la notion d'énergie, elle vient aussi à un moment là où, l'une forme de connaissance anatomique et théorique s'arrête, la notion d'énergie émerge aussi pour prendre le pas sur, justement, des choses qu'on n'arrive pas à dire ou à nommer théoriquement. Ici, théoriquement, vraiment entendu au sens de donner à voir quelque chose par l'esprit, j'arrive pas à nommer ces choses-là. Mais pourtant, corporellement, j'ai une connaissance très fine de ce qui est en train de se jouer. Et la notion d'énergie, elle vient justement permettre ça. Permettre de nommer une complexité d'agents qu'on n'a pas pu identifier ou qu'on n'identifie pas théoriquement, mais qu'on connaît. Et donc ici, le flou, finalement, de la notion, ça devient son intérêt même, ça devient sa force. Parce que le flou de la notion d'énergie, quelle est la complexité d'actants à l'intérieur qu'elle vient englober, justement, c'est fait pour passer outre cette question-là. Et en passant outre cette question-là, on arrive à une autre manière de nommer le geste qui ne serait pas justement une manière anatomique. Par ailleurs, la notion d'énergie, là je reviens dans le milieu du Qigong, on la retrouve par exemple sur cette question de relation avec l'anatomie. Dans un travail postural, il y a pas mal de postures qu'on vient prendre en Qigong, par exemple celle-là, on vient pousser avec les paumes de main et tirer avec le bout des doigts vers la tête, ce qui fait une espèce de double tension, qui n'est pas la position la plus confortable qui soit quand on doit la tenir un moment. Et typiquement, dans ce genre de position, la proposition des praticiens de Qigong va être de dire, quand tu tiens au bout de 10-15 minutes et que tu commences à fatiguer, il ne faut pas tenir avec tes muscles, il faut tenir avec le Qi. Et là, on voit comme une espèce de conflit physiologique, anatomique qui arrive. Le chi qui devient une autre entité de notre corps, mais dont on n'a pas connaissance ou qui, en tout cas, n'est pas connu d'une forme d'anatomie peut-être plus classique qu'on nous enseignerait. Des fois, c'est intéressant parce que les praticiens disent avant de dire tu tiens avec l'énergie, parce qu'ils ne savent pas si ça te va pour toi d'utiliser le terme d'énergie, ils disent tu tiens avec ta musculature profonde. Mais ta musculature profonde, ce n'est pas au sens... je dirais biomécanique, des muscles profonds en termes de superficie, des muscles. C'est plutôt une musculature profonde parce que c'est celle qu'on ne connaît pas trop. C'est une musculature qui n'est pas très bien connue, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais elle est ce qui compte, c'est qu'elle est en deçà d'une musculature superficielle qu'on imagine être plus intentionnelle, plus volontaire. Ah, je veux tenir, je veux tenir, je veux tenir. Ça, c'est les muscles superficiels dans cette anatomie-là. Et je tiens et ça va, et je me relâche, et juste je garde cette structure. Ça, c'est la musculature profonde. Mais en fait, il y a une corrélation ici très forte entre l'état d'intentionnalité à l'intérieur et l'engagement musculaire, enfin, les types d'engagement musculaire. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'on a des anatomies différentes qui entrent en jeu dès qu'on parle de la question énergétique. Voilà, et d'où dire ces questions de coordination, que justement, quand on est dans des anatomies dont on n'a pas tous les codes et qui nous paraissent un peu floues, dont on a une expérience, mais pas forcément de mots, le terme d'énergie, justement, est là pour venir nommer ce qui se passe sans discriminer les actants ou les forces à l'œuvre. Ouais, ça, c'était un exemple un peu dans cette idée-là d'un praticien de Qigong. C'est pas le Dzogchen Qigong, c'est pas le même monde. Mais c'est du Qigong quand même, c'est du Qigong du style Shaolin. Et là, on a un disciple donc qui pratique ce qu'on appelle la chemise de fer, la technique de la chemise de fer, qui va consister entre autres à venir briser la brique qui tient dans sa main à droite contre ses flancs. Et donc dans cette pratique-là, quand il conduit des entraînements de ce type de pratique, lui, son invitation, c'est de pas trop réfléchir en fait au moment où on frappe. Non mais c'est important. Pas trop réfléchir au moment où on frappe, simplement coordonner le geste avec le souffle. Et sa proposition, c'est qu'en coordonnant le geste avec le souffle, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie qui va pouvoir se mobiliser pour venir repousser et casser la brique, et que c'est pas juste un engagement musculaire. Donc un gainage, ici on ne peut pas faire grand chose d'autre que gainer quand on se prend une brique, donc gainer la sangle abdominale, c'est pas juste un engagement musculaire, c'est pas juste un engagement du souffle, et d'ailleurs, bon, sur des questions musculaires, il vient aussi casser la brique sur les côtes. Donc là, les côtes, les muscles, c'est les muscles intercostaux, donc c'est pas juste la sangle abdominale qui vient répondre. Donc, mais juste coordonner le mouvement avec le geste, et c'est ce type de coordination qui va faire émerger la possibilité qu'autre chose, ici l'énergie, justement, intervienne pour défendre le corps et repousser et voire casser la brique. Donc c'est une manière de se coordonner qui va libérer des forces connues et inconnues du corps. Et c'est ça qui va... Et la sensation et la sensibilité énergétique, elle va être là-dedans. Dans cette manière de venir coordonner et de potentiellement faire appel à des forces inconnues dans un mouvement. Bon. Et ça, c'est la dernière proposition de sensibilité énergétique, forme de sensibilité énergétique. C'est celle qu'on rencontre, pour le coup, que je rencontrais souvent sur mon terrain en danse. Donc, je suis avec un chorégraphe qui s'appelle Christophe Aleb et qui fait des portraits avec des jeunes, des adolescents entre 16 et 21 ans. Donc des portraits filmiques, il les invite à danser, il les filme aussi dans leurs activités quotidiennes. Et à la fois pendant le temps de tournage et dans le temps de montage, fréquemment cette phrase qui revient, « Ah, lui, il avait une belle énergie » ou « Lui, il avait une énergie comme ça, lui, il a une énergie très... » et un geste, parce qu'on ne sait pas, mais une énergie très... et l'autre, il a une énergie, au contraire, machin. Voilà deux portraits. Donc là, je vous en montre un, lui, il a une énergie très... et l'autre, il a une énergie très... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Celui-là, il a une énergie très, et l'autre, il a une énergie très. Parce qu'en fait, dans le Qigong, on entend un peu la même chose sur les lieux. Ah là, il y avait un lieu qui avait une énergie. Et ce lieu, par contre, il avait une énergie. Et cette personne, j'ai croisé des personnes, il avait une énergie. Etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on vient dire quand on a encore cet emploi du terme d'énergie ? Justement, ma sensation, c'est qu'on vient dire qu'il y a quelque chose, qu'on vient comme nommer si je prends le cas d'une personne, comme si on venait dire un peu un devenir dans lequel il est pris, un devenir dans lequel il est pris, mais aussi une histoire peut-être dans laquelle lui vient. On en regarde un et lui, son énergie, c'est à la fois une tendance, je dirais presque morphogénétique, ou une tendance ontogénétique dans laquelle il a été pris, et je le vois dans ce processus-là qui est déjà en tension vers l'avenir, mais je vois des forces qui sont à l'œuvre à travers lui, qui ont une qualité spécifique. C'est une qualité de devenir que j'aperçois. Et cette qualité de devenir, elle traduit à la fois une histoire, et elle traduit peut-être des désirs ou une manière de se projeter dans l'avenir. et elle traduit un état présent. Donc l'énergie ici, cette espèce de qualité transitoire d'un corps qui est en train de devenir quelque chose, mais qui est habité, tiraillé par certaines forces qui sont sociales, psychologiques, etc., etc. Voilà, donc là je vous ai posé un peu ces quatre propositions de régime de sensibilité énergétique. Je vous dis, je vous les pose comme ça. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient sans rapport, bien sûr, les uns avec les autres. Mais juste en l'état, pour moi, je les ai posés là, je veux dire, par rapport à là où j'en suis dans ma recherche. Et je n'ai pas encore complètement travaillé, réussi, imaginé comment on les... Enfin, bref. Là, ça devient un peu trop le chantier pour vous le partager, quoi. Du coup, je m'arrêterai là pour cette partie-là. Maintenant, juste, je voulais prendre un petit temps pour parler de la question des seuils d'acceptabilité de la notion d'énergie aussi. Seuil d'acceptabilité à la fois dans la communauté scientifique, peut-être, quand j'en parle, et à la fois pour les personnes qui sont prises dans ces pratiques-là, avec leur entourage, ou avec des gens qu'ils rencontrent, jusqu'où ils peuvent parler de leur pratique énergétique et à quel moment est-ce qu'ils s'arrêtent éventuellement. Je vais peut-être aller assez rapidement là-dessus. Simplement, dans le champ scientifique, j'avais deux exemples d'auteurs, plutôt dans le champ de la danse, pour le coup, de la danse et des arts martiaux, qui parlent d'énergie et qui ont une espèce de manière de... disons, de déconstruire l'idée que l'énergie, ce serait une espèce de réalité matérielle. Parce que finalement, c'est un peu ça qui... Je veux dire, tout ce que je viens de dire, proposer comme définition de l'énergie, je pense que c'est plus ou moins acceptable. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un moment où je sens que ça crispe. Il y a un moment où de parler d'énergie et de prendre au sérieux la proposition énergétique, ça vient un peu crisper les débats. Et ce seuil-là, à partir duquel la notion vient souvent crisper les débats, c'est le moment où ça devient plus seulement... un phénomène purement affectif, okay, d'une personne, d'un individu qui voit quelque chose, qui se raconte quelque chose et qui vient nommer sa énergie, mais au moment où on propose d'autonomiser finalement l'énergie comme une substance, comme une matière qui est là, qui aurait son autonomie, qu'on viendrait percevoir ou pas, etc. Donc dès que ça devient comme ça une espèce de substance un peu autonome et presque objectivable, les choses commencent à se crisper, et c'est là où on se dit, mais jusqu'où on les prend au sérieux, en fait. Là-dessus, je vais vous les résumer rapidement, les deux auteurs auxquels je pensais. D'abord, je pensais à Basil Doganis, qui est philosophe, qui a travaillé sur le cinéma d'abord, le cinéma d'Ozu, et ensuite sur les arts martiaux, enfin, les arts gestuels japonais, en mettant dedans la danse, les arts martiaux et le théâtre. Basil Doganis, moi, il m'intéresse parce qu'il a développé une notion qui s'appelle l'émulation. Pour lui, l'émulation, c'est un concept qu'il a mis sur quelque chose que d'autres ont nommé autrement avant, mais l'émulation, pour lui, je vous lis sa proposition de définition. En informatique, l'émulation consiste en l'imitation du comportement physique d'un appareil, ordinateur ou console de jeu, par un logiciel. J'insiste ici sur la faculté étonnante du corps d'émuler une réalité, c'est-à-dire de créer de toutes pièces, de se donner à lui-même, un référent virtuel le faisant réagir comme s'il était en présence de cet objet. Tout se passe comme si un instinct virtuel veillait sur le corps et n'hésitait pas, le cas échéant, à lui donner en pâture de véritables chimères, en émulant des fantômes de fées, des contrefaçons de l'expérience, pour le remettre dans le droit chemin ou simplement lui donner satisfaction et maintenir son équilibre physiologique. Cette capacité du corps à émuler, bien sûr, il l'emploie dans le champ de la danse, il l'emploie dans le champ du théâtre, il l'emploie dans le champ des arts martiaux. Il donne un exemple, peut-être connu, s'il y en a qui font de l'aïkido, de s'il y a quelqu'un qui vient et qui vous accroche par le dos et que vous voulez le renverser en le faisant passer par-dessus vous. Vous imaginez un coquillage sur le sol, vous allez ramasser le coquillage sur le sol, et en fait, en faisant le geste d'aller ramasser le coquillage, ça vous structure toniquement d'une certaine manière que vous pouvez plus facilement le faire passer par-dessus bord, parce que vous faites ce geste-là, plutôt que d'essayer de résister, etc. Donc, ça, en fait, ça configure la dépense énergétique ou la dépense tonique et musculaire dans l'action, et de manière à donner une efficacité au geste. L'une des propositions de Doganis, parce qu'il parle aussi des arts martiaux, il dit que le ki, cette question de l'énergie, justement, qu'on imagine entre les mains, justement, c'est typiquement une émulation. que ce truc entre les mains, l'énergie du ciel, de la terre qui descend, etc., machin, c'est des émulations, donc des croyances efficaces qui sont utilisées pour, justement, pour que les gens se sentent mieux, se relâchent. 5 minutes.
Ouais.
5 minutes. Ouais, 5 minutes. Mais non. Donc voilà, ça c'est la proposition de Basil Doganis. Donc je vais squeezer Suzanne.
Hop.
Bon, mais rapidement. Suzanne Langer avait du coup une autre proposition au sujet des danseurs. Une proposition dans laquelle elle décrit justement des danseurs. Et elle dit, ce qu'on voit quand on voit des danseurs danser, c'est pas juste des corps qui bougent comme ça dans tous les sens, c'est un jeu de force qui est mis en action par les corps et qui nous est donné à percevoir. Donc c'est ce jeu de force qu'on voit plutôt que les corps des danseurs qui bougent eux-mêmes. Mais après, elle rajoute, mais ce jeu de force qu'on voit, c'est pas ce qui met effectivement les corps des danseurs en danse, en jeu. Parce que ce qui les fait vraiment bouger, c'est l'activité musculaire. Tandis que nous, l'énergie, enfin, ou les forces qu'on perçoit, c'est des forces qui sont créées seulement pour notre perception, qui sont réelles parce qu'elles nous affectent dans notre perception, mais c'est pas les agents, à proprement parler, du mouvement des danseurs. Il y a l'activité musculaire d'un côté qui fait bouger les corps, mais cette activité musculaire, elle génère une force qu'on perçoit, etc. Mais il y a deux plans assez distinctement séparés. Et du coup, ces deux exemples-là nous renvoient quand même toujours à cette manière qu'on a de donner à la fois du crédit quand même à ces expériences pour leur efficacité, ou à ces images, ou cette question d'énergie pour son efficacité, la manière de transformer l'agir des corps. Et en même temps, on leur ôte toujours la possibilité d'être une donnée objectivable, d'être de la manière dont eux la décrivent, en fait. Parce qu'eux, ils la décrivent comme quelque chose, justement les praticiens de Qigong, par exemple, quelque chose qu'ils viennent chercher quand ils sont balades en forêt, quand ils sont en train de faire du vélo, quand ils sont en train de faire tout, quand ils sont en train de faire des soins. Donc quelque chose qui ne serait pas simplement une image qu'ils utilisent pour eux, pour changer l'état dans lequel ils sont, mais qu'ils utilisent aussi pour venir connaître le monde. Donc c'est ça que je creuse un peu en ce moment, ça devient un outil aussi d'une forme d'heuristique. Ça devient une manière de comprendre le monde, d'avoir une connaissance du monde. Il y a une personne qui choisit ses légumes au supermarché en allant regarder comme ça du mouvement de la main, les charges ou les densités énergétiques des légumes qu'elle choisit. Enfin, et des gens qui choisissent des lieux ou des maisons ou qui organisent leur maison en fonction de ça. Donc ça devient quand même une pratique comme ça à utiliser dans tout un tas d'autres circonstances. Et moi, du coup, en tant que chercheur, je me pose toujours la question de jusqu'où... finalement, quand je les prends au sérieux sur cet aspect-là, jusqu'où je peux aller sans enfreindre quelque chose qui m'apparaît quand même comme étant un genre de tabou scientifique, de se dire que, pour de vrai, ils sont en train de sentir des choses et d'interagir avec ça, sans que moi-même, je passe finalement pour un vendu de leur cause, ou je sais quoi. Enfin, et là, j'ai l'impression qu'il y a, pour le coup, une question de politique aussi scientifique et de tabou, et de... j'ai l'impression des fois presque d'hypocrisie aussi dans cette idée de... on va prendre le terrain au sérieux, mais jusqu'où ? Enfin, ce jusqu'où, il est quand même des fois un peu implicite et il ressort comme ça, bien sûr, dans tout un tas de situations. Jusqu'à me dire des fois que, j'avais entendu ça une fois, que c'était dangereux en fait de travailler sur l'énergie comme ça, parce qu'en fait, en donnant la voix ou en cautionnant finalement ce genre de pratique, je cautionnais aussi les anti-vax, les anti-sciences, non mais véridique. Donc les anti-vax, les anti-sciences et les anti-machins, parce que finalement, c'était un régime de connaissance du monde qui venait aussi court-circuiter des formes plus institutionnelles et plus instituées, et que du coup, les prendre au sérieux, c'était aussi moi-même finalement tirer une balle dans le camp de la science par laquelle je suis payé, ouais, etc., etc. Non, mais bref, ça prend des proportions assez étranges. Et du coup, moi, j'en viens vraiment à me poser la question du statut aussi, enfin, et du rôle des SHS là-dedans. Est-ce qu'on est toujours là pour dire... pour commenter en fait la manière dont ces pratiques viennent altérer des formes de vie sans jamais finalement les prendre tout à fait au sérieux, au risque de se faire bannir, etc. Et donc jusqu'où on peut aller, comment on se positionne et qu'est-ce qu'on fait face à ça, c'est ma question. Et donc pour l'instant, mes deux stratégies, c'est d'étudier le quotidien de ces gens-là, donc de voir finalement comment finalement ces choses-là viennent tramer leur existence dans tout un tas d'interactions avec leur environnement ordinaire. Et la deuxième chose, c'est je travaille en ce moment avec une anthropologue qui travaille sur la communication animale, sur les cow-boys texans, qui utilisent en fait ces notions d'enveloppe énergétique, enfin d'enveloppe Mais il parle de bulles, les bubbles, les enveloppes et les questions de pression, de relâchement pour gérer les troupeaux de vaches sur les chevaux. Voilà. Et qui sont juste d'autres manières, sans employer le terme d'énergie qui me renvoie, etc., de parler un peu de phénomènes sensibles qui ont pourtant l'air très proches. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Martin. Est-ce qu'il a des questions brûlantes ? Parce que sinon, on va les garder pour la deuxième partie, pour la troisième partie, je dirais, le troisième temps. Je sais qu'il va y avoir plein de choses qui reviennent, ces questions de seuil et de ontological politics, comme on dirait en anglais. Ouais, il y a plein de choses là.